Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Dictionnaire amoureux de la France, de Denis Tillinac. Denis Tillinac nous fait partager l'amour de la France, sa France. Il traverse le pays, de l'Auvergne à Paris, de la Normandie à la Provence, des châteaux de la Loire à la Dordogne, en passant par le Pays Basque. Il nous emmène à la rencontre des écrivains et des personnages symboliques de l'Hexagone, Bonaparte, Jeanne d'Arc, De Gaulle, Édith Piaf, les impressionnistes. Un tour de France richement illustré, de table en vignoble, à vélo, en deux chevaux, en train et en bateau. L'écrivain partage sa conception de la France en une sélection de plus de 40 entrées. Il dit « La France, je l'aime corps et bien, un amoureux transi, un amant comblé. Je la parcours, je l'étreins, elle m'émerveille. C'est physique, j'aime enchâsser l'or et le sang de son histoire dans la chair de sa géographie. » Denis Tillinac est né le 26 mai 1947 dans le 17e arrondissement de Paris. Il est le fils de Roger Tillinac, chirurgien dentiste et maire d'Auriac en Corrèze de 1978 à 1981. Il a grandi à Paris. Cancre, mais bon élève en lettres, il est renvoyé de 7 établissements catholiques et publics, si bien qu'il décroche son baccalauréat en candidat libre. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux en 1971, il commence sa carrière comme journaliste correspondant de la Dépêche du Midi, à Tulle, en Corrèze. Il a tiré de sa vie de localier un journal intime, Spleen en Corrèze, qu'il publie en 1979. On y voit notamment Jacques Chirac sillonner ses terres électorales. En 1983, il reçoit pour son 4e roman, L'été anglais, le prix Roger Nimier. Il confirme ainsi son entrée dans le monde littéraire, avec ensuite le prix Kléber Adens, le prix Jacques Chardonne, Paul Léoto et le Grand Prix de la littérature sportive. On connaît sa passion pour le rugby avec Rugby Blues. Il est le représentant personnel de Jacques Chirac au Conseil permanent de la francophonie de 1995 à 1998. Il dirige les éditions de la Table Ronde de 1992 à 2007. Il est membre de l'Institut Thomas More. Il fait partie, aux côtés de Claude Michelet et Michel Peyramor, de ce qu'il est convenu d'appeler l'école de Brive. Cette école se crée à la suite de la publication, en 1979, de la trilogie romanesque de Claude Michelet, Les gens de Saint-Libéral, évocation du monde agricole dans le bassin de Brive à partir du début du XXe siècle. À partir de là, plusieurs écrivains se lancent dans l'écriture de romans de type réaliste, centrés sur l'univers du monde rural. Denis Tillinac meurt dans la nuit du 25 au 26 septembre 2020 à Vosne-Romanée, des suites d'une crise cardiaque. Il meurt exactement un an après Jacques Chirac, auquel il était lié par une longue amitié. Denis Tillinac était marié à une pharmacienne, nièce du prêtre Jean Espinasse, résistant qui s'est illustré lors du massacre de Tulle en juin 1944. Paris-Toulouse. Austerlitz est une victoire de Napoléon et l'une des six gares de Paris où aboutissent les provinciaux depuis qu'il existe des trains. soit ils arrivent avec leur barda, soit ils repartent vers le sud-ouest. Avant le TGV, Austerlitz desservait Bordeaux. Certains trains poussaient jusqu'à Irun. Désormais, ils descendent tous à Toulouse. Les plus aventureux continuent jusqu'à Portbou vers une autre Espagne, un autre sud. Tous font escale à Brive-la-Gaillarde. Cette ligne, je la connais si intimement qu'en m'éveillant d'un somme, un regard me suffit pour savoir où l'on est. C'est ma ligne de fuite la plus ordinaire, et j'ai pour elle une affection qui remonte à l'enfance. Du reste, j'aime nos trains, nos gares, cette toile d'araignée dont Paris est le cœur et qui innerve les provinces jusqu'aux localités les plus périphériques par l'intercession des michelines rouges et beiges d'autrefois, des TER bleus d'aujourd'hui. Jusqu'à Étampes, rien d'autre à signaler que la tour de Montlhéry sur son promontoire, théâtre d'une victoire précieuse de Louis XI contre les nobles, et la vieille église de Lardy où débute la chronique du règne de Charles IX de Mérimée. Encore l'aperçoit-on à peine entre des semis de préfabriqués. Toutes les banlieues se ressemblent, et c'est peu dire qu'en France, on n'a pas pu cru devoir les rendre plus attrayantes qu'ailleurs. J'ai des souvenirs de fiestas sur les rives de la Juine, que bordent des pavillons en meulière, seul trait distinctif de nos zones périurbaines. J'en ai d'autres à Étampes, où deux églises romanes sont visibles du train. Après, c'est la Bosse, les ciels de Vlaminck, les vers de Péguy, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Au début de l'été, des coquelicots décorent le ballast. Leur rouge s'assortit merveilleusement à l'orpaillé des champs de blé, au domaine en fer à cheval bien enclos, autour des églises fortifiées. Des éoliennes ont poussé récemment, écologisme oblige. Sur le plan strictement esthétique, ce n'est pas très saillant. Orléans, n'ayant pas voulu de gare, comme Tours, on largue aux Aubrais des cadres qui travaillent à Paris. Restent les vrais voyageurs. Du pont qui enjambe la Loire, on voit la cathédrale et la chapelle gothique Saint-Aignan. Le fleuve à l'anguille dans les sables, cette cathédrale, cette ville où l'histoire a passé et repassé des plats de sang et de gloire. Orléans, ce nom de lieu si mélodieux, c'est cela la France, me dis-je avec contentement, alors que le train traverse les forêts et les étangs de la Sologne, cher à Genevois. Quoi de plus aimable que les bourgs de briques, bas de plafond, autour de la Ferté-Saint-Aubin et de Salbris, jusqu'à Notre-Dame de Cléry d'un côté, Saint-Benoît de l'autre. À Vierzon, des gens changent de train. On aperçoit le clocher rustique de Reuilly, vignoble estimable. On se souvient de la petite route qui va à Quincy, autre vignoble, et à Meun-sur-Èvre, château de Charles VII et délicieuse. Pensée de rigueur pour Balzac, la Rabouilleuse à Issoudun, en voyant la vieille tour, le clocheton du Beffroi et une flèche de l'église. On s'ennuie un peu dans la Champagne berrichonne. On vitupère le mauvais goût de la fin du XIXe siècle en regardant l'affreuse cathédrale néogothique de Châteauroux. Cette ville, sans charme particulier, a un titre ma sympathie. La proximité de l'escale, le fameux routier ouvert tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, situé en face des anciens bâtiments de l'OTAN. Je n'imagine pas une descente vers la Corrèze ou Toulouse, vers la RN20, désormais autoroutière, sans une halte à l'escale où l'ambiance est plutôt virile. On quitte la grande plaine du nord de la France, et même de l'Europe, du côté d'Argenton, où coule la Creuse, sous le regard attendri de la Vierge Dorée. Nohant n'est pas loin, j'y vais souvent, c'est le pays de Georges Sand, le décor de ses romans champêtres. Près de sa maison, sympathiquement bourgeoise, il y a la chapelle et les tombes autour, dont la sienne. Aux marches du Limousin, le relief se vallonne et s'assombrit de forêt, c'est le décor du Mont-Dragon de Margerie. Les monts d'Aubazac préfigurent la Corrèze. Limoges l'annonce, Userche la certifie. Toit gris, ardoise de Travassac, gorge de la Vézère, et au Moyen-Âge régnaient les Combormes. On imagine Marie Lafarge recluse avec son mari dans cette solitude. On lui pardonne presque de l'avoir empoisonnée. L'affaire avait défrayé la chronique en son temps. Périodiquement, des livres la tirent de l'oubli presque tous s'efforçant de prouver l'innocence de cette femme. Je les ai tous lus. Je crois Marie coupable, mais je l'aime bien quand même. Son crime est une variante du bovarisme. Brive la Gaillarde. Normalement, c'est mon terminus. Je connais tous les visages sous les casquettes des agents de la SNCF et ceux des serveurs du buffet de la gare. Mais je vais souvent à Toulouse. Avant même les viaducs de Soulac, on a abordé le Causse, ses toits oranges, ses chênes nains et ses cailloux grisâtres. Les bourgs sont de nocre pâle que le soleil fait resplendir. C'est déjà une latinité, modérée, douce. Gourdon sur son promontoire, Cahors lové dans une boucle du Lot au creux de ses collines. J'aime beaucoup Cahors. C'est la patrie de Clément Marot et Alfred Roch, un pilier d'anthologie qui a porté haut les couleurs du stade cadurcien. Je l'admirais beaucoup. Il est mort. Marot aussi. Presque tous ceux que j'admire sont morts. J'ai dû venir au monde trop tard. Encore le Causse jusqu'à Caussade. Ensuite, c'est la plaine. De la gare de Montauban, on aperçoit les tours jaunes pâles de la cathédrale, de l'ancien évêché devenu musée Ingres, au bord du Tarn. J'aime Montauban, presque autant que Cahors. Ses briques rosâtres annoncent le Languedoc. C'est un peu de Toulouse en modèle réduit. Je suis toujours heureux d'assister à un match à Sapiac, dans la fameuse cuvette, fameuse pour les rubifiles, dont Toulouse, qu'on le veuille ou non, reste la capitale. Du temps où j'étais localier à la Dépêche du Midi, on sortait de la gare Matabiau et on arrivait au journal, dans la rue Bayard. Il s'est expatrié au Mirail, morne banlieue. Par la grâce de ce journal, j'ai noué une relation presque amoureuse avec cette ville. Je ne m'y suis jamais enivré en solitaire. Certains endroits ont la propriété de condenser un univers. Toulouse, pour moi, se résume aux abords de la Dorade. Ce n'est qu'une vieille église le long de la Garonne, rose comme il se doit, rose délavée, agrémentée au XVIIIe siècle de colonnes néoclassiques comme la Madeleine et jouxtant les Beaux-Arts. On voit le pont neuf dont les arches hébergent des oiseaux bizarres et sur l'autre rive l'hôtel Dieu et le dôme de la Grave. Rien de plus, mais tout est là. À la limite, je n'ai pas besoin de revoir Saint-Sernin, les Jacobins, les Augustins ou la Dalbade, ni d'aller déambuler du côté de la rue du Thor, de la rue du Languedoc ou du canal de Brienne pour m'approprier l'âme rebelle de l'Occitanie. Je n'ai pas besoin non plus d'aller aux Sept Deniers. Ce recoin me suffit pour évoquer la saga du stade toulousain depuis Bergoignan jusqu'à Nyanga. Il m'offre l'orgueil des comtes de Toulouse et des Capitouls, les bastides du Languedoc, les cathares et les albigeois, les chansons de Nougaro à la gloire du fleuve dont les eaux sont verdâtres. Si je désire prier pour le salut de mon âme, c'est dans la pénombre de la Dorade que je me glisse par une porte qui donne sur une petite place au débraillé napolitain. Si je désire prier autrement, c'est sur le rebord du parapet que je me vois étreindre une brunette. Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai le droit d'escompter un miracle d'un lieu qui focalise tant de réminiscences dans un espace compris entre Montauban et Foix, Narbonne et Castelsarrasin, Gaillac et Mirande. Nom de lieu, nom de rugby, briques roses, campanile et clochers octogonaux, accent adéquat, zeste d'Espagne, ici et là, montagnes noires et Pyrénées, quand le vent d'autant a chassé les nuages. Par la grâce de la SNCF, ce parcours entre Austerlitz et la Dorade est devenu pour moi la double allégorie bienheureuse d'un retour au bercail et d'une évasion vers un des suds de la France, et pas le moins charmeur. Puisqu'il faut bien qu'un Français regrette quelque chose, j'avoue ma nostalgie du Capitole et de son wagon-restaurant à l'ancienne. On y dînait entre habitués, c'était une auberge corrézienne montée sur rail où chacun avait son rond de serviette. Souvent l'apéro durait jusqu'à Châteauroux et parfois on ne payait l'addition que la semaine suivante. La foire du livre de Brive ressuscite nos ripailles une fois par an à la fin de l'automne, en affrétant un train spécial où l'on régale la faune des plumitifs. Ils n'ont pas tous la franche jovialité des notables du Sud-Ouest, dont Maurice Faure était pour moi le symbole. Exit le Capitole. Il faut se contenter d'un corail reconverti en théose, où la restauration se réduit aux aquets d'un chariot qui propose des sandwichs caoutchouteux en diable. Reste ce plaisir de regarder la France passer insensiblement d'Oyle à Nock, en acceptant le risque de narrer en rase campagne car sur cette ligne, les trains font des caprices. Montfort en Chalosse. C'est un village posé sur une colline du pays de Chalosse qui moutonne entre la vallée de l'Adour, la forêt landaise et les coteaux de l'Armagnac. Pays de rugby. Là-bas, même les oies que l'on gave au maïs ont des envies de ne pas se croiser ou de mêler aux vouertes. Deux frères qui s'aimaient d'amour tendre, comme les pigeons de la fontaine, habitaient sous le stade de Champêtre. On voyait les poteaux depuis la maison de leurs parents. Des gens de la campagne simples comme bonjour, droits comme des pins. Les deux frangins étaient nés juste avant la guerre. Ils ont grandi en jouant au ballon sur la place, puis sur le stade. L'aîné s'appelait André. Dieu l'avait gratifié de tous les dons, la beauté, la sagesse, la force des bras, la vélocité des jambes, une adresse de funambule, un œil de lynx. La grâce à l'état pur. Le cadet s'appelait Guy. Il était maigre, comme un courlis, insoucieux, facétieux. Dépenaillé. Trop gentil, pas très sage, André le surdoué veillait sur Guy comme un père sur son enfant. À 16 ans, il était international junior, bien que portant les couleurs orange et noir de Montfort-en-Chalosse, 800 habitants. À 20 ans, il était international tout court. À 30, les chroniqueurs anglo-saxons le considéraient comme le plus grand joueur de rugby de tous les temps. Par devoir, par orgueil et par mimétisme, Guy était devenu lui aussi un joueur d'élite, et l'élan de Médusée assistait à ce miracle. Les deux frères associés sous le même maillot jaune et noir de Mont-de-Marsan, le chef-lieu, puis sous celui de l'équipe de France, trois quarts centre l'un et l'autre, André numéro 12, Guy numéro 13, ensemble, ils conquirent à Bordeaux le titre de champion de France contre Dax, sous-préfecture des Landes, l'ennemi héréditaire des Montois. Ensemble, ils prenaient en garde Dax le train pour Austerlitz, la veille des matchs internationaux, dormaient dans la même chambre, et à Colombes, ils illustraient ensemble le French flair en zigzagant entre les défenses. Buste droit, lippe dédaigneuse, André avait la beauté d'une divinité grecque. Contraste absolu avec Guy, mèche sur les yeux, chaussettes sur les talons, course rageuse. André était un absolutisme du jeu empanaché, esthète de surcroît et râleur invétéré. D'où des mécomptes avec les dirigeants et des polémiques sur les frères Bonny, qui exaspéraient dans la France d'Ovalie un conflit entre leurs partisans et leurs ennemis. Une sorte d'affaire Dreyfus, avec l'accent. Ce couple de légendes allait mettre un terme à sa carrière internationale lorsqu'une nuit de réveillon, 31 décembre 1967, Guy se tua en voiture en Trajetmo et Saint-Sevé, deux petites villes de la Chalosse, proche de Montfort. Depuis, André porte le deuil du petit frère. Souvent, on le voit seul, désemparé, inconsolable, devant une tombe en forme de terrain de rugby. Le cimetière et l'église de Montfort sont en retrait du bourg, et les montagnes Pyrénées ferment l'horizon, comme partout en pays d'Ovalie. Cette histoire belle et triste a accédé à la légende. Des gens viennent de partout pèleriner dans ce cimetière. Moi, j'habitais Vichy. Je jouais en junior, j'étais pour les Bonny, et je rêvais des Landes, du Béarn, de la Bigorre, de la Septimanie. En ce temps-là, Vichy s'enorgueillissait d'une équipe haut de gamme, avec aux commandes un grand joueur en fin de carrière, Gérard Dufaux, ancien capitaine du Racing et de l'équipe de France, natif de Dax, comme par hasard. Vichy était situé à l'extrême nord des terres d'Ovalie. Les dimanches de championnat, on voyait au stade des équipes venues de là-bas, et l'imagination se constellait de noms de lieux faramineux. Là-bas, Pau, Béziers, Cahors, Tyros, Agen, Narbonne, Tarbes, Montauban, La Voulte, Lourdes, Groyer, Bayonne, toute une géographie sudiste qui miroitait le lundi dans les pages du miroir du rugby ou de Midi Olympique. Elle m'instruisait de l'existence de Port-Vendres, de Peyrorade, de Carmaux, du Boucau, de Montmont-de-Lomagne, de Lannemezan, de Mauléon, de Condon, de Prades, de Souston, de Bagnères, de Saint-Giron, d'Andaille, d'Oloron, de Saint-Sevé entre autres, où agonisa Guy Boniface. Lorsque le 1er janvier 1968, j'ai appris la nouvelle à la télévision, il m'a semblé que les portes de ma jeunesse se refermaient dans mon dos avec un suintement de guitare électrique. Elles s'ouvrent, grâce au ciel, quand je reviens au pays du rugby. Et j'y reviens souvent. J'en connais les replis sur le bout du cœur. Dans le moindre patelin, je sais mettre un nom de joueur ou plusieurs sur l'herbe du stade. D'ailleurs, je connais presque toutes les arènes majeures, et s'il s'agit d'un club que je n'ai jamais vu jouer à la maison, je cherche son stade pour incarner, pour colorier ce que j'ai lu ou ce qu'on m'a raconté. Mon royaume gascon a deux capitales. Auch, à cause de D'Artagnan et de Fourou. Montfort, parce que c'est le village des frères Boniface. André et sa famille sont devenus des amis. Ils habitent au Sgor, à l'autre bout des Landes. Nous évoquons ces riches heures sur l'herbe verte, les glorieux anciens, Pratt, que j'ai à peine connu, Crost, Gachassin et Darouille, que je croise parfois, Domenech, que j'ai fréquenté à Brive, Roc, qui, avant Clément Marot, m'a fait rêver de Cahors et dont j'ai voulu découvrir le village natal, Caz-Mondenard, pas loin de Moissac. Nous allons voir un match à Bayonne, dans ce stade Saint-Léon, rebaptisé Jean Daugé, qui, derrière les poteaux, ouvre une perspective sur les murailles et les flèches de la cathédrale. Nous allons voir aussi un match de niveau plus modeste à l'IT mixte, et au retour, nous passons par Souston pour admirer le stade, un des plus beaux que je connaisse, avec ses deux pavillons bleus et blancs encadrant les tribunes, l'un surmonté d'une tourelle. Qui se souvient de l'Audouard, André et moi ? Ces souvenirs me parachutent aux quatre coins de la Guyenne, de la Gascogne, du Languedoc. Mais les nœuds gordiens de sa vie, les moments de grâce, les comédies, la tragédie, c'est autour de Montfort, dans ce périmètre compris entre Biarritz, Orthès, Dax et Mont-de-Marsan. Pays magique à tout égard, pays de vignes, de pain et de sable, pays du foie gras, du confit, des salmis, de la ventrèche, de l'huomo, des gésiers, des fritons, des cœurs de canard cuits. Dans de la bonne graisse, si vous avez par exemple le privilège d'une acquaintance avec Bastia, natif de Pouillon, international de l'US Dacquoise, figure tutélaire de ce club, comme Béraud ou Albaladejo. Pays d'humble cocagne, où l'on peut, si l'on sait tenir sa langue, se faire servir des ortolans ou des tourterelles. Arrosage au vin de Tursan, de Madiran ou des côtes de Chalosse. Pays où l'on joue à l'écarté avec des vaches quand on a raccroché les camprons. Au pays des bonnies, on joue sa vie à la hussarde. On la savoure, on ne la mégote pas. C'est une autre de mes patries intimes, une France selon mon cœur, un conservatoire de mes nostalgies qui, paradoxalement, m'ouvre l'appétit. En vérité, ses frontières sont imprécises. Elles débutent entre Dordogne et Garonne, Saint-Nardy jusqu'au Pays Basque et remontent à Toulouse, depuis Bayonne par l'autoroute qui double désormais la RN17, la route des champions de France de rugby. C'est une Gascogne idéalisée qui a vu passer au long des siècles, venue de toute l'Europe, des cohortes innombrables de pèlerins en marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand je reviens m'y poser, je passe toujours par Montfort-en-Chalosse. Déjeuner facultatif chez Stouzin, pèlerinage obligé dans ce cimetière pentu, adossé à sa petite église, où continue de souffler autour d'une tombe l'esprit de jeunesse, d'insouciance, d'innocence, de panache, l'esprit mousquetaire de la France. D'ailleurs, c'est entre Dax et Mont-de-Marsan que Gautier a situé le manoir du capitaine Fracasse, alias baron de Sigognac, donc pas loin de Montfort ou de Saint-Sevé. Ce manoir fantomatique et décati, au début du roman, rutilant à la fin par la grâce de l'amour après la séquence initiatique à Paris, je le confonds un peu avec celui de D'Artagnan à Lupiac. Même cadre historique pour les deux romans, le demi-siècle de Louis XIII. Comme le Cyrano de Rostand. Et comme toujours en France, c'est l'histoire d'un provincial qui monte à Paris pour s'éprouver, se révéler si possible, ou bien se brûler les ailes. Guy Boniface, le cadet des Bonnies, a éprouvé cette tentation. Il suffoquait un peu de Mont-de-Marsan. Il aimait retrouver Blondin et Marie d'Abadie dans les bars de la rue Mazarine et le suivre chez Castel, qui était gascon. André n'avait pas cette attirance. Les Landes lui suffisaient. « Je suis plutôt comme Guy. Rien ne me suffit. J'envie la sagesse d'André. Si elle me vient avec l'âge, je resterai dans mon village, comme lui dans ses Landes. mais aux approches d'un printemps, j'aurais toujours envie d'y descendre pour aller m'enfiévrer dans une tribune avec mes amis de là-bas. Sitôt, l'esprit continuera de souffler à sitôt, tant qu'il y aura des moines. Il émane miraculeusement de la pierre à Fontenay, toujours en Bourgogne, à Sénanque, au Toronné ou à Noirlac. Il souffle aussi à Aubazine, en Corrèze, où un copain de Bernard de Clairvaux, natif de Montplateau, fonda une abbaye. Il a soufflé dans toute l'Europe, à partir du début du XIIe siècle, lorsque l'abbaye mère, implantée par Robert de Molène, rayonna par la grâce de saint Bernard. Ces deux réformateurs étaient bourguignons. La dissidence des cisterciens vis-à-vis des clunisiens, bure blanche contre noire, est un de ces moments où l'histoire de la chrétienté occidentale a été orchestrée par des Français. En grégorien, moment grandiose à l'aube du gothique, il y eut d'autres réformes du monachisme au Moyen-Âge. Saint Bruno, saint Dominique, saint François d'Assise, mais la cistercienne a éclos sur notre sol et saint Bernard, théologien, prédicateur mystique, homme d'action et d'influence, peut être considéré comme notre plus grand saint. Le but était tout simple, revenir à la stricte observance de la règle de saint Benoît après la réforme de Cluny, déjà la Bourgogne, qui avait tourné court. Le génie créateur des cisterciens a initié une révolution tant spirituelle évangélisation des Baltes et des Prussiens, qu'économique, élevage, pour le salut des hommes et leur prospérité aussi. Elle fut féconde à tout égard et a enfanté un art fait de rigueur, de pureté, de luminosité. Port-Royal était à l'origine une abbaye cistercienne et l'austérité janséniste rend un certain écho à l'exigence des premiers réformateurs. Le dernier sera Rancé, fondateur de Trappes. On comprend mal le tempérament français si on occulte l'influence du monachisme depuis Saint-Martin et Saint-Hilaire. Sans lui, nous serions moins enclins à acquérir l'absolu ou à dévoyer cette aspiration en nous gargarisant d'utopie collectiviste ou réactionnaire. C'est souvent qu'au détour d'une route secondaire, dans un trou de verdure proche d'une rivière, on découvre les restes plus ou moins réhabilités d'un monastère autour duquel la vie paysanne a gravité durant des siècles. Si le toit de l'église se contente d'un clocheton, si les murs sont nus, le chevet plat, les colonnes tronquées et les chapiteaux ornés seulement de feuilles d'eau, c'est un vestige de la grande aventure cistercienne, sans doute la plus grandiose de l'histoire de France, en tout cas la plus noble. Que l'on soit ou non croyant, on éprouve le sentiment de retrouver une maison de famille dont le siècle nous aurait dépossédés. Maintes fois, j'ai été tenté de le fuir pour apercevoir en psalmodiant un reflet de l'invisible. Le siècle m'a toujours attrapé. Je n'ai pas la trempe d'un disciple de saint Bernard, loin s'en faut, mais, en tant que Français, j'ai conscience d'une dette considérable à l'égard de sitôt, en tant qu'écrivain aussi. Consciente de ses infirmités, ma plume voudrait suggérer l'indicible avec les mots de tous les jours, au prix d'une assaise qui reflète la visée de l'art cistercien. Pas le reflet d'une exigence dont il reste néanmoins un souci de sobriété et d'épuration assez récurrent dans notre histoire littéraire. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourroir. À bientôt.